Bienvenue à Coup de Bulle pour cette émission spéciale pendant la 16e édition du festival. C'est bien ça, là, c'est la 16e.
Oui.
Une émission un peu particulière, en mode Covid, masqué.
Absolument.
Donc, déjà, on est très content parce qu'on a réussi à maintenir le festival.
C'est vrai, ça n'a pas été sans mal, ça y est, c'est fait.
Voilà, ouais, on est très content. Il y a des grands festivals qui ont annulé. Nous, on est toujours présents. Donc, on a une volonté de pouvoir continuer. Que dire d'autre, tu vois, on a été obligé de réduire au niveau des animations pour respecter les règles sanitaires, réduire la jauge d'auteur.
Tout à fait. Et du coup, on a c'est vrai qu'on a quand même profité du soleil. Là. On profite du soleil, il fait bon. Vous pouvez sortir une fois que vous aurez fini d'écouter la radio. Et ben, vous pourrez venir nous retrouver place Châteauneuf et salle au Vieux Game. Et découvrir, parce que malgré tout, on a moins, mais en même temps, on a fait. Il y a quand même finalement beaucoup de choses.
Ouais, beaucoup de
des
choses.
Animations, des expos, on y reviendra. Ouais. Avec la créatrice de l'expo sur le travail de Stéphane Fer. Enfin, il y a trois expositions, voilà. Donc, je pense que. Puis il y a quand même presque 30 auteurs qui sont là aujourd'hui et demain. Et je pense qu'on a essayé de vous proposer.
On peut remercier nos partenaires parce qu'ils nous ont soutenus dans ce cadre, dans cette période un peu compliquée. Hein. Merci Radio Campus d'assurer une fois de plus l'émission. C'est 2 heures d'émission. Hein,
c'est ça, 2 heures d'émission en direct. Et puis en direct et en public par ailleurs. Du coup, on a quelques spectateurs. Bonjour.
C'est pas souvent. Donc, puis des imprévus, on vous en parlera tout à l'heure.
C'est ça.
Quelques imprévus qui nous obligent à adapter l'émission. Donc voilà, après, je pense qu'on va faire une petite pause musicale. Et après, on vous parlera de la Tour d'Ivoire et de l'expo.
Absolument.
Qui a lieu en ce moment. Voilà. Donc le morceau, là, c'est Slipknot, Nero Forte. C'est pour réveiller tout le monde et faire tout le monde, sortir tout le monde par ce beau temps.
C'est ça.
Sur l'antenne de Radio Campus, oui. On se bafouille un peu, là, c'est pas facile de parler avec
puis
le masque.
C'est pas notre terrain de jeu habituel, hein, on peut le dire. Hein,
non, c'est vrai que d'habitude,
tout de suite,
on est plutôt enregistré, pas en direct.
C'est ça.
On peut bafouiller.
On, on a le droit de couper quand ça se passe pas bien.
Et puis là, on se regarde droit dans les yeux, on voit pas le sourire.
Non, mais je tire la langue, là, aussi, c'est
ouais,
ça.
Ouais, moi aussi.
Bon, tu nous présentes quand même.
Donc, eh bien... Autour de cette table, donc, nous avons notre cher président.
Bonjour. Philippe.
Qui est sur la fin.
Je dirais. Sur le départ.
Sur le départ, voilà. On est tous très tristes.
Oui. Il fait non de la tête, mais vous ne le voyez pas.
Laure, avec qui on fait l'émission Coup de Bulle.
Tout à fait.
Et puis nous avons Juliette qui va nous remplacer au pied levé Stéphane Fer, qui malencontreusement a loupé
Bonjour.
Son train, enfin loupé sa correspondance.
Ouais.
Et en fait, à la base, on devait parler. De l'affiche,
ouais.
La création de l'affiche, mais Juliette ayant participé à la conception de l'exposition.
C'est ça, exactement.
Concernant l'œuvre de Stéphane Fer, donc je pense qu'elle avait été à même de pouvoir nous en parler. J'ai pu voir que tu avais fini ta broderie.
Exactement.
Tu peux nous raconter peut-être cette fameuse broderie que vous pouvez voir à l'exposition, qui est assez incroyable. Ouais. Raconte-nous, du coup, ça part de d'où ? On se dit, une image d'un illustrateur en canevas, enfin en broderie, pardon, c'est un peu inédit. C'est
oui, exactement.
Une idée de ta part, de la sienne
Alors en fait,
pour
la réalisation de l'exposition, du coup, j'ai rencontré Stéphane Fert, pour qui j'ai posé pas mal de questions sur comment il a réalisé l'album, les designs, son histoire. Et une chose entraînant une autre, en fait, on a effectivement commencé à parler de ce canevas. Il y a une marque en fait, qui s'appelle Canva Fatal qui réalise des canevas modernes à partir d'illustrations d'auteurs de BD ou d'illustrateurs. Et du coup, Stéphane Fert avait effectivement réalisé un canevas avec cette société. Du coup, il m'a proposé effectivement de réaliser ce canevas pour l'exposition.
Trop bien. Et donc voilà. Toi, tu t'es dit go. T'en avais déjà fait avant ou pas?
Non, j'en avais jamais fait, mais il était tellement beau ce canevas, je me suis dit c'est une trop bonne idée, on va énorme. Commencer à le faire. Bon, c'était très très long.
Ouais. Nous, on peut attester, puisqu'on t'a vu l'avancer en pleine réunion alors qu'on préparait le festival. Donc t'as vraiment,
pour la petite anecdote, du coup, je l'ai commencé au mois de mars pour l'exposition et je l'ai fini donc vendredi matin, hier à 11h30.
Donc, s'il vous plaît, prenez-la en photo, parce qu'on en est très fiers.
Ah ouais, c'est top, hein.
Ça me fera plaisir, merci, pour ma souffrance.
Moi, j'ai le souvenir d'une réunion, la dernière réunion avant le festival, de voir Juliette
en train de
écouter la réunion et continuer à faire son canevas. Donc,
Il fallait choisir entre les deux, du coup, le canevas était comme la priorité pour l'exposition.
T'as bien fait, t'as carrément bien fait. Et alors cette expo, du coup, tu l'as donc faite avec Stéphane. Vous avez eu des échanges peut-être en amont. Tu peux nous raconter un peu le processus?
Oui, alors en fait pour la création de l'expo, comment ça se passe? On rédige un petit questionnaire qu'en général on envoie à l'auteur. Donc là, je trouvais ça plus sympa de le rencontrer. Mm. Aussi, j'avais eu l'occasion de me déplacer dans sa région. Donc on s'est vu une fois. Et effectivement, on a pu discuter des grandes thématiques de l'album. Donc les thématiques intéressantes à évoquer, donc c'est comment il est arrivé à créer l'album, son histoire, ses inspirations, son style graphique, parce que Stéphane Fert, ce qui est très intéressant, c'est qu'il a quand même un style graphique très particulier.
Complètement.
Donc voilà. Alors aussi, juste petit aparté, hors émission radio et conférence, on projette une vidéo de création d'un de ses dessins, et c'est le dessin qui a servi à faire le canevas. On y revient toujours au canevas.
Donc on le projette là, dans la salle au Kugem, à l'étage.
Donc vous pourrez voir
la place Châteauneuf.
Donc en fait, c'est une manière de voir comment il dessine, et c'est assez intéressant parce qu'en fait, il travaille directement les couleurs par masse de couleurs et il fait très peu de croquis avant. Mm. Donc quand on voit comment il fait, comment il commence à faire son dessin, il met vraiment les grandes masses colorées sur sa feuille. Et après, voilà, il affine avec des petites traits. Donc c'est vraiment particulier comme manière de dessiner, c'est très intéressant.
Ouais.
Donc voilà, et ensuite après, la thématique principale de l'album, c'est les contes. Mm-hmm. C'est un thème qui lui tient particulièrement à cœur, et donc c'était très intéressant de discuter de cette thématique avec lui.
Oui.
Il m'a conseillé beaucoup de livres à lire, des podcasts à écouter, donc voilà, c'est vraiment, même au-delà de l'album, en fait, c'était hyper, hyper enrichissant pour comprendre vraiment toute sa démarche globale.
Oui, parce que c'est vrai que c'est une thématique qui lui tient vachement à cœur. On sait que sur le précédent aussi, Morgane, on était déjà entre les contes, peut-être un peu plus la légende arthurienne aussi.
C'est ça, voilà. Il y a quand même une thématique de l'imaginaire, de la sorcière qui revient souvent. Voilà, dans Morgane, c'était tout à fait le cas. Là, il y a la fée Margot qui est aussi une illustration de la place de la sorcière dans son œuvre. Et voilà, et aussi, par exemple, l'affiche, c'est une sorcière qui est dessus. Donc, c'est vraiment une thématique qu'il apprécie particulièrement.
Tout à fait. Alors, la fameuse affiche, je vais quand même dire deux mots parce que, bon, on n'a pas Stéphane qui peut nous en parler directement. Mais moi, j'ai découvert justement grâce à l'exposition. Alors, notre affiche à nous est inspirée de la couverture. Pardon, je confonds un peu, mais la couverture, en fait, j'apprenais là, en regardant l'expo, que c'était une inspiration directe de l'affiche du film Peau d'âne, en fait.
J'avais
pas du tout fait attention.
Oui.
Et on voit bien le comparatif sur l'expo, sur une des planches derrière, n'hésitez pas à aller voir. Et c'est quasiment, cas au niveau des formes, très pour très, l'affiche.
Oui, il y a un vrai rapport, et ça, moi aussi, ça m'a étonné, parce que bon, j'ai vu le film Peau d'âne à l'époque.
Oui.
Et disons que j'avais pas percuté, mais c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans l'exposition que tu as faite, c'est qu'on voit bien que les sources d'inspiration sont multiples.
Oui.
C'est-à-dire que bon, il y a le conte, etc., mais il y a aussi des éléments plus récents, tirés du cinéma. Enfin, voilà, moi je trouve que là, c'est assez visible. Quoi.
Oui.
Et alors, moi, j'avais une petite question là. Comment as-tu découpé? Quel choix as-tu fait pour découper ça sous forme de panneau? C'est-à-dire que quels sont les thèmes finalement que tu as choisi par rapport à ce que Stéphane t'a dit, ou c'est...
Alors après, moi, du coup, je suis quelqu'un de très intéressé par l'art de manière générale et par le dessin. Donc moi, je dessine personnellement aussi. Mm. Et donc du coup, en fait, quel que soit le sujet, moi, les couleurs, la manière de travailler graphiquement, quelque chose qui m'intéresse. Donc ça, c'était sûr que je voulais faire quelque chose sur ça. Donc ça peut expliquer, par exemple, qu'il y a une partie juste sur les formes et les couleurs.
Ouais.
Ça peut pas forcément sembler un peu futile à certaines personnes, mais moi, surtout, ça allait très bien avec ce que faisait Stéphane Fert. Mais lui, il a vraiment une manière... En fait, c'est vraiment la bande dessinée moderne. En fait, souvent, on peut avoir peur un peu que la bande dessinée, on a encore un peu l'image on va dire traditionnelle, la bande dessinée un peu franco-belge. Et là, je veux dire, c'est vraiment aussi un travail artistique dans les formes qui est hyper intéressant. Donc ça, c'est quelque chose que je voulais vraiment mettre en avant. Ensuite, après, effectivement, tout ce qui est inspiration et origine de l'album, ça me semblait important. Mmh. Avec après toute une partie aussi sur lui, ce qu'il est, d'où il vient, voilà.
Oui, comment, bien sûr, sa
provocation, voilà, exactement. Mmh. Et le dernier point, je voulais faire aussi une petite partie historique, justement, sur le conte. Mmh. Parce que ce qui était intéressant aussi, c'est que le conte a une histoire aussi. Le conte, c'est un genre à part entière, comme dans l'expo. Et c'est aussi important pour l'objet en lui-même de le dire, parce que. Par exemple, on ne fait pas souvent le lien avec Peau d'âne, comme vous dites tout à l'heure, parce que c'est aussi le conte Peau de mille bêtes. Et c'est vrai que souvent, on ne sait pas forcément en fait, que c'est la même histoire, mais par différents auteurs.
Oui, complètement. Donc, c'est un des titres en fait, qui est moins connu, ça. Mais c'est un des titres originels.
Voilà. Donc après, c'est vrai que déjà, si c'était directement Peau d'âne, peut-être que les gens auraient fait un peu le lien. Donc pour moi, c'était important de faire un historique du conte aussi, pour que les gens... je trouve ça intéressant de comprendre ce que c'est... Parce qu'au final, c'est quand même un conte moderne maintenant, et je pense qu'il a exactement les mêmes buts que les contes de l'ancien temps. Mm. C'est-à-dire que c'est un thème que j'évoque dans l'exposition. Lui, il a des thématiques, notamment par rapport aussi à la protection de la nature. C'est une BD très féministe.
Ouais.
Et ça, en fait, c'est le but du conte moderne, en fait, c'est les combats de notre siècle. Et voilà, c'est important, je pense, de pouvoir le mettre en avant, et je pense que c'est lui sa volonté.
On sent qu'il y a un vrai pâte mélange du conte traditionnel et des valeurs modernes.
Oui.
Il y a un vrai mélange entre les deux.
C'est ça.
Très fort pour le coup.
Donc c'est pour ça que c'était hyper intéressant. Donc voilà, c'est ces grandes thématiques. Donc on va dire voilà la vie de Stéphane Fert, le conte de manière générale. Pour moi, ça c'était important. Toutes ces inspirations, son travail graphique. Donc c'est comme ça vraiment que j'ai fait les différentes parties. Et pour finir, il y avait ses futurs projets. Mmh. Donc il y a tout un panneau sur son futur album qui est blanc autour.
C'est top ça aussi.
La couverture est magnifique, si vous avez l'occasion d'aller la voir. Et voilà, le thème, c'est pareil, c'est encore un thème engagé. Donc voilà, sur l'intégration, il y a des dizaines d'années de personnes noires au sein de la société. Donc c'est
en plein dans l'actualité en plus.
Exactement. Voilà.
Donc en plus, voilà, si vous voulez des petits scoops sur le prochain travail de Stéphane, il ne faut pas hésiter à venir voir l'expo.
Cette fois-ci, je crois que c'est Lupano qui est au scénario. Là.
Oui,
c'est
en plus on a Lupano.
Il est en collaboration.
Oui, c'est cette ça. Fois-ci, c'est
alors
pas auteur.
Les deux premiers albums
sont entre guillemets auteur illustrateur. Il est. Ah non, le premier Morgane, c'était avec Kansara. J'avais oublié. Mais effectivement, Pony de Bête, c'était lui tout seul. Et après, là, oui, Lupano, je pense sur le prochain, ça risque d'être très intéressant. Mon avis, très belle collaboration qui s'annonce.
Oui. Je crois qu'il avait, pour le cirque est venu aussi, il avait déjà collaboré.
Oui,
aussi,
t'as raison.
Donc
il revient un peu à ses collaborations. Ça risque d'être super, je pense.
Je pense aussi.
Bah, merci beaucoup, Juliette, pour cette présentation. Ça valait le coup de rendre un peu hommage à ton super travail, puisque on a été bluffé de ce que vous avez fait avec Stéphane. C'est vraiment une super expo à retrouver à la salle Okegem, à l'étage, aujourd'hui et demain.
J'aimerais,
n'hésitez surtout pas.
Vas-y. J'aimerais juste dire un dernier mot. J'aimerais remercier Diane, si peut-être elle nous
écoute. Oui, pardon, c'est vrai.
Qui Diane est la personne qui a travaillé d'arrache-pied avec moi pour mettre notamment toute la mise en page de l'exposition. Donc Diane, merci pour ton super travail. Et d'avoir supporté toutes mes petites demandes d'alignement de texte, entre autres, et d'illustration.
Une expo comme ça, là, c'est combien de temps de travail, justement ? Est-ce qu'on peut estimer ça ?
Honnêtement, beaucoup. Non, c'est vraiment beaucoup. C'est au moins une journée par semaine depuis le mois de janvier, quoi.
On rappelle que dans l'asso, à Tour de Bulle, on est tous bénévoles, on a tous un travail à côté, donc c'est en plus sur du temps perso. Donc voilà, c'est de la passion, on adore ça.
Ah oui, c'est sûr.
Mais
c'est très
effectivement, c'est du boulot.
Et c'était hors Canva pour encore.
Oui, c'est ça, sans compter le Canva. Ouais, c'est important.
Oui, le Canva. Là.
Mais il faudra peut-être qu'on se mette en cheville pour les futurs Tours d'Ivoire avec une association ou un groupe de personnes qui aiment le Canva ou le point de
croix. Franchement,
alors je pense
l'idée
que
est lancée. Hein.
Si vous contactez Canva Fatal, ils seront peut-être intéressés pour un petit partenariat ou venir un jour, peut-être.
Pourquoi pas
Ça peut être une idée.
Ce serait vraiment top. Merci beaucoup,
Juliette. Merci à vous.
Alors moi je vais dire juste que du coup, Stéphane Fert ne sera pas là cet après-midi. C'est bien de le dire. Mais je pense qu'il est présent toute la journée de demain.
Oui, tout à fait.
Je crois que jusqu'à 18h.
De toute façon,
on va l'asseoir à sa chaise.
Je crois qu'il va être cloué à la chaise, le pauvre. Hein, clairement, on ne va pas le laisser partir.
Il sera aussi présent le matin.
Oui, absolument.
Il va y avoir
un peu de temps de rattrapage pour les personnes qui sont venues que pour Stéphane et qui pourraient être déçues cet après-midi.
Tout à fait.
Donc avant de passer au prochain thème qui accueillera Fanch et Gaëtan sur le thème de rôle de la couleur, on va faire une petite pause musicale avec Passy, Je zappe et Je mate.
La 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 la. Radio Campus Tour.
Bah moi j'adore.
RadioCampusTour.com.
J'adore.
Câblé sur télé, l'image, le son sont mes spectres. Les programmes je bête, les directs je m'injecte. Je suis un enfant de la télé, fonce des rediffusés. Flashback dans le passé, conditionné, barbé. Aux sagas des séries et au bang bang à l'américaine. Starsky, Star Trek et tout ce qui engraine. Pose une question pour un champion, parle-moi l'émission. Argo Margot, je connais les ragots, je suis barjo comme Colombo, comme un lundi, un samedi mat ou le jour du Seigneur. Je suis à téléphile, au-delà du réel, télécommandant chez les zappeurs. À cause de leurs bêtises, mon crâne est un bouillon de culture pub dans les films. Je veux du feu, l'amour et de l'aventure. La 1, la 2,
mon prix dans le jeu.
La 3, la 4,
je zappe et je mate.
La 5, la 6,
en sont les complices.
Beaucoup d'argent, de guerre et de sexe à la télé. La 1, la 2,
mon prix dans le jeu.
La 3, la 4,
je zappe et je mate.
La 5, la 6,
en sont les complices.
Câblé, survolté, j'ai le syndrome du canapé. La 2, télé allumée, même sous la couette elle m'appelle. 19h20, je suis avec elle, comme un mini ou 14h. Quand je me lève en jogging, je veux des maths à bonheur. Marié, deux enfants, faire du télé-shopping. Moi, chapeau melon, des pompons cuir à papa connu comme Cousteau. Je veux des jumeaux, des cuts, jekyll, un Cosby show. Mon chien sera Scooby-Doo et se tapera la scie. Les histoires naturelles, dans ma maison, dans la prairie. Placer ma famille en or, oh, dans la pyramide. Sortir de la zone interdite, et des histoires stupides. Un beau cabriolet d'amour, gloire et beauté. Oui, je suis matérialiste, je veux ce que je vois dans le poste. Les couleurs de mon pays, sagacité, mon trop traîné au poste. Je lance la roue de la fortune, j'ai ma chance dans la chanson. Mes lettres valent du chiffre, je et les artistes à 2 francs. Facile à chanter, tocard, je mets ton clip sur le boulevard. La 1, la 2,
mon prix dans le jeu.
La 3, la 4,
je zappe et je mate.
La 5, la 6,
en sont les complices.
Beaucoup d'argent, de guerre, de sexe à la télé. La 1, la 2,
mon prix dans le jeu.
La 3, la 4,
je zappe et je mate.
La 5, la 6,
en sont les complices.
Câblé, survolté, j'ai le syndrome du canapé. Troisième mi-temps, tout le sport, je suis fou de téléfoot. Je suis la télé le dimanche, l'équipe du dimanche me branche. Gère dans la marche du siècle, par le mois de capital. Y'a trop de bluff dans nos pages, les magazines, les reportages. Tout est possible, manipulé sous projecteur, contrôlé à la télé et nulle part ailleurs. T'y crois pas sans aucun doute, ça se discute, taratata, j'abats les masques, but l'image qui percute. Reload, Dimat n'est qu'une histoire de genre. Gag vidéo, moi je suis pas un guignol du flash info. Sort ton œil du cyclone, t'as perdu de vue le vrai du faux. Quand tous les médias bosseront bien, je serai témoin numéro 1. La 1, la 2,
mon prix dans le jeu.
La 3, la 4,
je zappe et je mate.
La 5, la 6,
en sont les complices.
Beaucoup d'argent, de guerre et de sexe à la télé. La 1, la 2,
mon prix dans le jeu.
La 3, la 4,
je zappe et je mate.
La 5, la 6,
en sont les complices.
Survolté comme un taureau fou, j'ai le syndrome du canapé. La 1, la 2,
mon prix dans le jeu.
La 3, la 4,
je zappe et je mate.
La 5, la 6,
en sont les complices.
Y'a trop d'argent, de guerre et de sexe à la télé. La 1, la 2,
mon prix dans le jeu.
La 3, la 4,
je zappe et je mate.
La 5, la 6,
en sont les complices.
Câblé, survolté, j'ai le syndrome du canapé.
À Tokyo, radiocampustour.com
et à Fondette, 99.5 FM.
De retour en direct, cette fois-ci en compagnie de Fanch, de l'assaut du À Tour de Bulle.
Salut Rodi.
Et Gaëtan, auteur invité, qui vient pour son album Le Rapport W. Hein, c'est bien.
Bonjour.
Ça. Voilà. Donc là, on va aborder un thème. Je crois que c'est toi qui as choisi le thème, Fanch.
Ouais, c'est un thème que j'aime beaucoup.
D'accord.
Et je pense que Gaëtan Nock aime beaucoup également.
Eh bien, c'est parti. Donc, le thème, c'est sur la couleur, hein, c'est ça ?
Ouais, la couleur.
Le travail des couleurs.
Le travail des couleurs. Peut-être quelque chose qui est un petit peu négligé quand on parle travail de bande dessinée. Je prends l'exemple de Gaëtan Nock. Souvent, il est présenté comme un auteur complet. et on parle d'un auteur dessin et scénario. Mais en fait, c'est un auteur complet, c'est dessin, scénario et couleur. Et on oublie souvent dans les interviews la couleur, et c'est dommage parce que Gaëtan et beaucoup d'autres, il y a un vrai travail de recherche de couleur. Le dessin transpire aussi par sa couleur. Et d'ailleurs, ma première question, c'est pour toi, quel est ton rapport à la couleur ?
Mon rapport à la couleur, donc par rapport à la BD, c'est que ça fait partie du processus de conception en fait, du dessin, de la construction de l'image et de sa mise en scène, la mise en scène de l'histoire. Je commence par la couleur. Alors que classiquement, bon, si on prend Hergé par exemple, hein, c'est d'abord le dessin, c'est la ligne claire, ensuite venaient des coloristes. Enfin, bon, voilà, la démarche classique, c'est que la couleur intervient en coloriage. Alors ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien. Hein. Mais donc moi, ce qui m'intéresse, c'est au contraire que je commence par la couleur, parce que la couleur, c'est aussi la lumière. Qui dit lumière, dit ombre. Donc je construis le dessin, en effet, par des masses, mais comme un peintre, en fait. C'est la technique du peintre qui commence par des grandes masses de couleurs et qui, au fur et à mesure, ensuite, va sur le dessin. Et donc je finis, en général, toute la partie dessinée. Donc au crayon, c'est vraiment à la fin où je vais certifier, spécifier une forme.
Ok. Quelque part, on ne peut pas retirer la couleur de ton dessin.
Ah non.
C'est incomplet.
Oui. Ouais.
J'en parlais justement à un auteur qu'on a déjà reçu, c'était Patrice Pellin, qui avait changé d'éditeur et qui avait un rythme pour son nouvel éditeur de publication qui était trop faible. Et du coup, on lui avait imposé un coloriste et ça l'avait complètement bloqué. Quelque D'accord. part, on lui avait retiré son dessin et ça n'a pas fonctionné. C'est un peu pareil pour toi, la couleur est imbriquée dans le dessin.
Oui, elle est intrinsèque au dessin parce que... alors là, c'est vrai que la gamme, en plus, c'est pas du tout... Je suis pas du tout dans une approche de surenchère, justement, chromatique. C'est-à-dire que je pars là, sur le rapport W, c'est une base de deux couleurs.
Exactement.
Et les couleurs fondamentales, le bleu et le rouge. Alors quand je dis rouge, le rouge, ça peut être avec un S. C'est-à-dire il y a le rouge chaud, qui est un ocre, une couleur de terre, qui est une couleur ancestrale, qui fait partie des premières couleurs, et un magenta, qui est une couleur un peu plus chimique, mais qui donne un rouge un peu plus froid, hein, qui est plus proche du rose. Et ça me permet de jouer avec ce bleu, l'équivalent d'un bleu de Prusse. Hein. Ça me permet de, comme c'est un bleu assez foncé, bah, ça me permet d'avoir un panel de couleurs, une gamme assez large. Voilà.
Alors justement, on parlait de deux couleurs de choix sur l'album Le Rappeur W paru aux éditions Daniel Meghen. Pourquoi ce choix de deux couleurs, deux thèmes, deux couleurs ? Parle-nous-en un peu plus.
Alors, par rapport justement à ce récit, qui est un récit d'espionnage dans un contexte terrible, parce que c'est celui de la Shoah, hein, du camp de concentration d'Auschwitz, je voulais surtout pas. Je voulais que la couleur ait une dimension psychologique. Qu'elle exprime plus des états d'âme qu'elle ne soit, disons, naturaliste. Ce n'est pas une couleur naturaliste, c'est une couleur qui suit la psychologie du personnage ou la psychologie d'une ambiance. Et en même temps, je ne voulais pas tomber dans les clichés, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a une planche, elle est magenta. C'est un monochrome de magenta. On dirait magenta, chambre de fille, voilà, c'est gentil. En fait, pas du tout, j'ai choisi cette couleur au moment où il est à l'hôpital et où le héros est à deux doigts de mourir. Et je trouvais que le magenta prenait une dimension d'étouffement, voire d'écœurement. Voilà. Donc c'est des choix évidemment subjectifs qui me correspondent à moi, à mon travail d'auteur, mais que je définis selon une logique qui est celle des sentiments en fait. Donc idem pour le bleu qui est plutôt serein. Par moments j'utilise en effet dans certaines parties par exemple les rêves ou les souvenirs, mais par moments c'est aussi des moments justement de peut-être d'oppression ou d'angoisse.
Tu l'utilises énormément pour l'armée allemande notamment, le bleu.
Oui, de mémoire. C'est-à-dire que je ne l'ai pas établi au début en me disant les Allemands c'est en bleu, les Polonais ça va être rouge. Non, disons, et puis alors, c'est pareil, il y a bleu et bleu, parce que le bleu, par moment, je l'utilise de manière très saturée, et puis par moment, je le désature un peu, justement. Et comment je désature un bleu ? Je vais peut-être mettre une petite pointe de rouge. Hein, du coup, il va basculer sur un violet si je mets un magenta, si je mets un ocre, il va basculer un petit peu plus sur un bleu vert quoi. Donc là aussi ça dépend aussi du degré d'intensité, et en général quand j'utilise la couleur pure c'est qu'il y a quelque chose d'un peu fort qui se passe, si je puis dire.
D'accord. Alors, cet album a fait l'objet d'une belle, de beaucoup de prix également. Il y a eu une exposition à la galerie Mingen, justement, oui. À Paris. Tu as participé à la mise en œuvre de cette galerie. Est-ce que la couleur a joué dans le placement des planches que tu as choisies?
Oh, là, j'ai laissé la galerie gérer. Je leur fais confiance, c'est des professionnels. Ils ont fait ça très bien et ils ont géré. Bon, à la fois, c'est Daniel Magen qui a choisi évidemment les planches. Et ensuite, il y a une équipe pour tout ce qui est la scénographie. Et ils ont fait ça très bien. Ouais. Ouais.
Quand on lit cet album, donc, on voit que la couleur est presque un paradigme de l'album. Et c'est important de le mettre en rapport avec une œuvre de ta part qui est Soleil brûlant en Algérie,
oui.
Qui n'a pas de couleur.
Exact.
Est-ce que tu peux nous parler de ce rapport?
Alors, le Soleil brûlant en Algérie, c'est un travail en effet à la mine graphite, très grasse, hein, ça doit être du 6B, du 8B. Et alors là, c'est aussi en rapport avec le sujet, c'est-à-dire c'est l'Algérie. Et notre culture française de l'Algérie, je voulais surtout pas utiliser la couleur parce qu'on a l'image de la peinture orientaliste du 19e, où il y a une débauche de couleurs, où c'est une approche un peu fantasmée justement de l'Orient. Et là, on était sur un sujet là aussi grave, qui est celui de la guerre d'Algérie. Donc pour moi, c'était intéressant d'évacuer la couleur. C'est pas un point de vue négatif, c'était pour aussi mieux traiter la lumière qui est propre à l'Algérie, en accentuant justement ces rapports clairs, foncés, par la valeur et par aussi le crayonné de la mine graphite.
D'accord.
Qui donne une texture au dessin. C'est-à-dire, c'est pas des aplats mécaniques. Il y a vraiment une texture liée aussi au mouvement que je donne dans ma manière de travailler. Non.
Tu parles de texture également. Si on revient au rapport W, la couleur te donne cette texture, le fait que la couleur dépasse du trait.
Oui.
On a quelque part ce rapport gourmand un peu au dessin. Est-ce que tu peux nous
parler? Oui, le rapport au mouvement, parce que pour moi, le dessin, c'est la vie, c'est le mouvement. Et c'est vrai que je suis à l'opposé d'un travail de ligne claire. Voilà, c'est un choix, c'est un choix, comme je disais tout à l'heure, d'auteur. Et en effet, pour moi, il y a même des repentirs que j'assume complètement, que je pourrais gommer, hein, soit à la gomme, soit sur Photoshop, c'est pas très compliqué. Hein. Donc c'est vraiment des choix. Si à un moment on voit que il y a un trait en dessous parce que le bras, je l'avais pensé un peu comme ça, c'est assumé parce que pour moi, ça fait partie d'un mouvement naturel du dessin et de la nervosité aussi d'un dessin.
D'accord. Donc on a parlé d'une différence avec Soleil brûlant. Si je dois mettre un parallèle, c'est parfois des planches muettes où le dessin se suffit à lui-même.
Oui.
Et ça, c'est une constante qu'on retrouve dans le rapport W.
Et que je continue sur le prochain album. Il va y avoir des passages comme ça, muets. J'aime bien. En fait, je pense beaucoup à la musique, hein, parce que c'est un art du temps. Hein. La bande dessinée, c'est l'espace et le temps. Donc il y a des moments où il va y avoir du dialogue, où on aura beaucoup de texte, puis à un moment, je laisse filer, quoi. Et je laisse aussi le lecteur s'approprier le récit, rien de pire que de le prendre par la main et lui dire, tiens, il faut lire ça, il faut comprendre ça. Donc pour moi, c'est une œuvre ouverte.
Bien, parfait. Est-ce que tu as une petite question? Est-ce que j'ai un moment?
Non, non. Est-ce que tu fais des crayonnés quand même, avant de passer sur la couleur, des crayonnés légers pour...
Sur la planche ou sur des carnets? C'est-à-dire
sur tes carnets ou pour travailler, oui.
Alors déjà, évidemment, je fais des crayonnés sur un... J'ai un cahier de scénario où je fais des petits storyboards, je précise la composition de la planche, voilà, je fais des essais de dialogue, etc. Après, une fois que je sais comment je vais placer mes cases, ce que je vais mettre dedans, quand j'arrive à la planche, hein, c'est un demi-raisin, donc c'est assez grand, évidemment, le crayonné, il se fait avec une craie. Une craie de couleur. D'accord. Et là, souvent, c'était une craie bleue. Donc, je fais un crayonné de craie bleue, mais c'est assez rapide, assez général. Ensuite, je mets la peinture, c'est de l'acrylique. Mm-hmm. Et ensuite, vient le crayon de couleur.
Pour préparer cette interview, je suis allé sur Internet trouver une interview que tu as donnée pour BDTech.
Oui, je ne me souviens plus.
Et en fait, l'intervieweur... Mm-hmm. Parle de ton travail comme un travail de croquis de journaliste.
Est-ce que oui. Bah, moi, je viens du... Enfin, je viens... J'ai fait beaucoup de carnets de voyage, en fait. Avant de faire de la BD, pendant 20 ans, j'ai parcouru les quatre coins du monde et mon expérience, c'était me placer face à un paysage ou dessiner les portraits des gens de manière spontanée. Ça durait un quart d'heure, une heure ou cinq minutes. Et je pense que c'est ce qui a fait aussi la technique que je réinvestis maintenant en bande dessinée, c'est-à-dire un art un peu de l'urgence. Parce que quand on dessine sur place, on n'est pas à l'atelier tranquille, quoi. Des fois, il va se mettre à pleuvoir, des fois, vous avez des fourmis, des fois, il y a les voitures, il y a la pollution, il y a du monde. Donc ou la personne que vous avez en face de vous, vous savez qu'elle ne va pas poser pendant deux heures. Donc, en fait, c'est bien d'être tenu par une espèce de, comme ça, de tension dans le dessin qui fait que on est constamment dans le mouvement, du coup.
Ok. J'ai une autre question qui s'éloigne un petit peu de la couleur. Hein. Tu me dis si je suis trop bavard
ou pas. Non, non, c'est bon.
C'est que du coup, on est publié chez Daniel Magan, ce qui est relativement rare comme éditeur en BD.
Oui.
Et du coup, comment s'est fait cette rencontre et comment on part sur un album, en fait?
C'est une super rencontre avec Daniel Magan. Je suis allé le voir, je lui ai proposé le projet. Il a rapidement...
Un projet de BD ou un projet d'exposition? Parce que c'est plus...
Ah non. Je suis allé le voir pour lui présenter ce projet-là, le rapport W. J'avais déjà dessiné le prologue.
D'accord.
Donc voilà, je lui ai proposé ça. Et le lendemain, il m'a rappelé, il m'a dit on le fait.
Eh bien, parfait.
Donc ça, c'est... C'était,
belle rencontre,
c'était une belle rencontre et surtout je travaille avec Vincent Audin qui est responsable de la partie éditoriale qui fait un très très beau travail de graphisme et de suivi au niveau de la FAB, ce qui permet d'avoir un objet très très bien imprimé, hein. On a été en Belgique pour ce qu'on appelle les calages, hein, chez l'imprimeur, hein, ce qui permet justement de bien étalonner, bien de voir le respect des couleurs. Et voilà, ce sont des objets éditoriaux qui sont bien finis. Et j'apprécie de travailler avec les éditions Daniel Magan, bien sûr.
Là, parfait.
Moi, je vois l'album. Il a quand même un bel album, hein, qui a beaucoup de planches. Pour toi, ça a été combien en temps de travail?
Oh, 18 mois à peu près. 18 mois, sachant que dedans, il y a aussi la typo. On ne parle jamais de la typo, le lettrage d'un album. Oui. Mais j'ai conçu la typo de l'album de manière à l'utiliser aussi je l'ai travaillé sur FontLab, en fait. Comme ça, je l'ai sur clavier. En fait, la typo, je ne la dessine pas sur les planches, je la mets dans un deuxième temps, dans la mise en page. Hein. Mais c'est une typo qui est faite à la main, par moi-même, et qui tend à retranscrire là aussi ce côté fait main, les petits défauts, c'est volontaire. Donc, en effet, dans un album, il y a la scénarisation, il y a la typographie, il y a toute la recherche documentaire. Je suis allé deux fois sur place à Auschwitz pour m'imprégner. Donc il y a tout ça qui rentre en jeu. Et les planches, finalement, oui, c'est du temps, mais c'est peut-être 50% hein, de tout ça.
Parfait.
Parfait.
J'entends que ça sonne.
Oui, voilà. Oui. Je vous ai mis un timer. On essaie de respecter un peu le créneau.
Merci à Gaëtan Nog. On rappelle le rapport W infiltré à Auschwitz chez Daniel Magan. Gros succès. Est-ce que étonné du succès ou pas du tout? C'est une question un peu bête.
Mais... Non, mais on ne sait jamais de toute façon comment un album va être reçu. Donc c'est un peu toujours le
saut quand tu reçois quand tu vois les premiers prix d'abord qui arrivent.
Quand j'ai pas compris.
Les premiers prix, en fait, quand tu commences à être primé, quand tu commences à être.
Moi, ce que j'ai apprécié, c'est les premiers retours des journalistes, en fait. Et j'aime bien la BD pour ça, parce que je trouve que, quel que soit le niveau, hein, on a toujours des retours. Il y a toujours des gens qui disent ce que vous faites, alors que par exemple dans les arts plastiques, c'est bien plus difficile d'avoir un appareil critique. Là, il y a une vraie force critique à tous les niveaux, que ce soit à la radio, dans la presse, que ce soit par les blogs. Et j'aime beaucoup avoir des retours, qu'ils soient positifs ou négatifs, mais même quand un lecteur vient me voir au moment de la dédicace, c'est toujours très fort, le retour de lecture.
Bah super.
Eh bien,
un grand merci à Gaëtan.
Ouais. Merci.
Merci à vous. Et puis on va passer avec une petite pause musicale, Alain Bachou, Immortel.
Super.
À Tokyo, radiocampustour.com
et à Fondette, 99.5 FM.
Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels. Pourquoi es-tu parti avant que je te l'apprenne? le savais-tu déjà? Avais-tu deviné que des dieux se cachaient sous les faces avinées? Mortel, mortel, nous sommes immortels. Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels. As-tu vu ces lumières, ces pourvoyeuses d'été? Ces leveuses de barrières, toutes ces lampes épuisées, les baisers reçus, savais-tu qu'ils duraient? Quand se mordant la bouche, le gouant revenait. Mortel, mortel, nous sommes immortels. Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels. As-tu senti parfois que rien ne finissait, et qu'on soit là ou pas, quand même on y serait. Et toi qui n'es plus là, c'est comme si tu...
De retour sur l'antenne de Radio Campus en compagnie de Simon Hureau.
Bonjour.
Loïc Chevalier.
Bonjour.
Et de notre cher président qui va nous présenter le thème.
Tout à fait. Alors, on était parti dans l'idée de faire un thème autour du jardin. Et finalement, j'ai décidé de changer un peu le thème. Et parce que en lisant vos deux bandes dessinées, je me suis dit que finalement, elles étaient dissemblables dans le sens où l'une est la création d'un seul auteur et l'autre la création de quatre personnes. Et du coup, on reviendra sur le thème du jardin. Et je voulais commencer par poser quelques questions à Loïc. Comment est venue l'idée de travailler avec Étienne et Luc?
Déjà, en fait, l'idée venait de Luc, déjà, qui était le moteur de la série, puisque c'était son idée. C'est le scénariste, Luc Brunswig, et c'est lui qui nous a proposé cette histoire. Et il s'est basé sur l'expérience qu'on avait eue, moi et Étienne, sur la série 14-18, qui, comme les frères Rubinstein, est une série qui va se dérouler sur pas mal de tomes. Hein. On pense que les frères Rubinstein, ça sera jusqu'à 9 tomes, alors que 14-18, ça a été fait sur 10 tomes. Et donc, avec Luc, on a eu cette expérience sur cette série, Étienne faisant les personnages et la mise en page, de la bande dessinée, et moi les décors. Voilà. Donc on a vu que ça avait bien marché, et donc Luc s'est dit pourquoi pas faire reproduire cette même technique, cette même expérience avec les frères Rubinstein. Luc connaissant déjà Étienne depuis un certain temps puisqu'ils ont travaillé ensemble. Et voilà, donc ça, on est parti là-dessus sur cette façon de faire.
D'accord. Et là, du coup, j'ajoute au sens dissemblable, parce que autant l'Oasis est un album unique, enfin, je ne pense pas qu'il y aura de suite, enfin, peut-être, hein, 10 ans, 10 ans, pour expliquer l'avenir du jardin, mais là, du coup, partir sur une série, sur une longue durée, là, quelque part, 9 tomes, est-ce que, comment, quand on aborde un projet comme ça, on se dit, là, je vais en prendre pour plusieurs années, voire pas mal d'années. Du coup, est-ce que ça fait pas un peu peur ? Est-ce que on se dit je vais pouvoir tenir le choc ?
Bah voilà, ça fait beaucoup moins peur parce que justement il y a eu cette expérience de 14-18. Donc là, sur 14-18, je faisais un tome sur deux, donc sur 10 tomes. Là, je vais faire les décors sur 9 tomes. Donc effectivement, on rajoute un cran en plus. Déjà je suis content d'avoir du travail pour quelques années, donc c'est un peu rassurant parce que dans la bande dessinée c'est pas toujours évident. Donc il y a aussi cette sécurité là, il y a le fait aussi que avec Étienne on s'entend très bien, avec Luc aussi, et donc voilà, c'est un plaisir de travailler ensemble. Et voilà, on va même reproduire cette façon de faire pour une série qu'on va faire en parallèle avec un autre scénariste, donc en parallèle des frères Rubinstein. Donc voilà, c'est pas le moment d'avoir peur.
D'accord. Alors maintenant, Simon, moi j'ai une petite question. Enfin, c'est-à-dire que là, quand on voit le travail de Loïc et d'Étienne et de Luc par rapport à ton travail qui est toi, où là, on est dans une histoire. Imaginez, alors que là tu nous parles plutôt d'une autobiographie, comment tu vois ce type de travail ? Est-ce que toi-même tu aurais envie de te lancer dans des choses sur une aussi longue durée, ou tu préfères rester dans des albums courts, moins longs à faire ?
Alors 8-9 tomes, c'est vrai que c'est un peu impressionnant, ça me paraît un peu intimidant. J'aime bien l'idée d'un album unique dans lequel on met tout. On dit tout ce qu'on a à dire, et s'il doit y avoir une suite un jour parce qu'on a autre chose de plus à dire, pourquoi pas. Ce qui pourrait être le cas de l'Oasis, d'ailleurs, je continue de prendre des notes sur le jardin parce qu'il continue de se passer des choses, ça évolue. En l'occurrence, l'Oasis, ça racontait 10 années de progression de la biodiversité sur un jardin, mais ça ne s'est pas arrêté au bout de 10 ans et je continue de faire des tas de découvertes. Après, quant à me lancer sur une série, non, c'est vrai que j'aime bien passer d'un sujet à l'autre, et c'est une partie de ma liberté justement d'auteur de ne pas m'engager comme ça sur quelque chose qui va me tenir enfermé. C'est très enfermant la bande dessinée, alors on est tout seul avec sa feuille pendant des mois et des mois, donc savoir qu'il y a une porte de sortie quand même au bout, je préfère. Je suis toujours admiratif des gens qui se lancent dans des grandes séries, même les séries classiques qui arrivent au tome 38, voire plus au bout de 35 ans. C'est formidable, mais... Je préfère garder ma liberté.
Mmh. On habite avec les personnages après, là, c'est... Oui. Et là, alors moi, je reviens sur ton album, donc, que je trouve formidable. Enfin, les frères Minchan, je l'ai lu et je trouve aussi que c'est un très très bon départ. Alors, je vais revenir un petit peu au jardin, puisque finalement, quand on ouvre ton album, il y a une préface de Gilles Clément. C'est pas très courant d'avoir des albums qui soient préfacés par quelqu'un, et en plus Gilles Clément, qui est une sommité mondiale dans le monde du jardin. Quoi.
Oui, c'est sûr.
Comment ça s'est fait du coup ? Est-ce que c'est toi qui l'as contacté, ou l'éditeur, ou c'est lui qui a eu vent de ton projet ?
Non, c'était une idée de l'éditeur. Moi-même, je n'aurais pas spécialement pensé à demander une préface à qui que ce soit. Et quand il m'a soumis le nom de Gilles Clément, je me suis tout de suite dit que ce serait une formidable idée, et ce serait vraiment extraordinaire qu'il accepte. L'éditeur lui a envoyé le projet et ça lui a plu. Il a tout de suite, en urgence, écrit une préface que je trouve formidable, très belle, très bien écrite, et qui dit tout. Enfin, c'est presque.
C'est ça.
C'est presque le résumé d'un livre de Gilles Clément, en fin de compte.
Mm-hmm. Et en même temps, c'est extrêmement encourageant. Hein, quand
c'est très encourageant. Oui.
Moi, je trouve ça formidable. C'est-à-dire qu'on, à l'issue de sa préface, c'est pas fini. C'est-à-dire qu'on a envie de lire la suite, quoi. Qui est ton album, quoi. Mm-hmm. Et c'est une grande force. Hein.
Non, donc je suis très fier de cette préface et je la trouve très réussie. Mais en effet, je ne me suis pas posé la question de savoir si cet album méritait, devait avoir une préface ou pas. Ça s'est fait comme ça parce que l'éditeur y a pensé. Et aussi bien il aurait refusé, on n'en aurait pas eu. Bon, on aurait perdu quelque chose. Mais...
Je sais pas, tu as toujours des projets en cours que tu entames, tu travailles comment comme ça, peut-être. Et à un moment, tu te focalises sur un projet, tu te dis ça y est, c'est celui-ci que je vais faire.
Oui, c'est un peu ça. Il y en a toujours plus ou moins de différents volumes, de différents investissements en parallèle. J'ai pas mal d'idées de livres pour la jeunesse aussi. J'essaye de ne pas m'ennuyer, c'est-à-dire que j'aime bien revenir sur un projet avec des idées fraîches. Plus on reste longtemps sur le même truc, plus on se sclérose et on a besoin de recul. Moi, je travaille tout seul à la maison, je ne suis pas en atelier, donc je n'ai pas forcément beaucoup de recul extérieur. Donc c'est bien que je me le fasse moi-même en passant d'un projet à l'autre, en sautant du coq à l'âne, pour garder une fraîcheur et puis ne jamais s'ennuyer. C'est toujours le risque de s'ennuyer à faire toujours la même chose. Là, en l'occurrence, je raconte la vie d'un Français qui est parti vivre au Groenland depuis 35 ans, que je suis allé rencontrer là-bas, et c'est passionnant, ça n'a rien à voir. J'étais a priori plutôt attiré par les histoires qui se passent au soleil. Et c'était inattendu, ça m'a pris de court, mais justement, c'est bien d'aller à l'encontre de son confort. Ça permet de rester toujours éveillé.
Ouais, tu te laisses porter par les événements ou...
Complètement, ouais. Voilà, quoi. Par les rencontres. Là, en l'occurrence, on m'a proposé de rencontrer cette personne et... j'avais toute la liberté de dire non, mais ça me paraissait quand même intéressant et je ne regrette pas du tout, c'était passionnant.
D'accord. Et toi, j'allais justement demander à Loïc, toi du coup tu travailles en atelier avec Étienne, vous êtes tous les deux dans la même pièce ou chacun chez soi et vous échangez
Alors c'est un peu des deux, parce que je travaille à l'atelier Pop à Tours, mais Étienne n'est pas à l'atelier Pop, il est dans son propre atelier à côté de Tours. Donc c'est plutôt, avec Étienne et avec Luc, c'est un atelier virtuel. Donc on s'échange, alors effectivement des fois comme il n'habite pas très loin, on se rend visite et donc comme ça permet aussi de parler de visu et de faire un petit brief des planches que je viens de terminer et puis des planches qui va me passer. Voilà, c'est à distance, mais on a quand même le contact, l'échange par internet ou de visu, voilà.
Ah, j'ai une petite question à vous deux. Est-ce qu'on pourrait qualifier vos albums d'albums militants dans le sens, l'un pour la biodiversité, la liberté de la nature, d'arrêter de la saccager, pour dire les choses brutalement, et l'autre plus sur un thème autour de l'antisémitisme, et on va voir les développements futurs. Mais est-ce que du coup, il y a l'envie ou l'idée, ou je ne sais pas, que ce soit un côté militant, ou c'est juste votre envie à vous qui a fait ça ?
Moi personnellement, comme c'est déjà à la base, c'est une idée de Luc de vouloir traiter de ce thème-là, mais moi je suis totalement raccord avec ce qu'il dit, le message qu'il veut faire passer et justement ce qu'il dénonce dans le livre. Et voilà, moi je suis attaché à l'histoire, mais en même temps on peut pas se détacher un peu de politique ou au moins de voir ce qui se passe déjà de nos jours. Donc je suis assez je sais pas si je suis militant, mais en tout cas assez sensible dans les idées qu'il veut faire passer. Et voilà, je trouve ça déjà très intéressant de se souvenir de notre propre histoire, et d'autant plus qu'elle résonne aujourd'hui sur différents, que ça peut être l'antisémitisme, le racisme en général, ou bien d'autres choses encore.
Oui, alors moi en commençant, j'avais pas de projet ni pédagogique, ni militant, ni quoi que ce soit. J'avais quand même un petit peu un message à faire passer. Et puis finalement, c'est la préface de Gilles Clément là, qui m'a fait me rendre compte, il le dit dans la préface, qu'il y a un contenu quand même assez politique et que ça engage vers quelque chose. Je ne m'en rendais pas forcément compte, donc je pense qu'en effet, il y a quand même un contenu un peu militant qui prend une direction affirmée, mais ce n'était pas forcément spécialement voulu. Je parlais plus de mon expérience et de comment je sentais le jardin, et j'avais l'impression personnelle que le jardin... doit renouer avec la nature et ne pas se contenter d'être un jardin fermé à la nature, comme on voit dans les catalogues où on n'a que des espèces animales, végétales choisies et rien d'autre.
Il n'y a pas de place au hasard, quoi. Il n'y a pas de place à la nature, finalement, voilà. Au laisser aller.
Alors que moi, je parlais plutôt d'un équilibre entre les deux, entre le faire et le laisser faire.
Bah, c'est ce que propose Gilles Clément.
Voilà, tout à fait.
Non, je ne sais pas, tu as encore des questions
Oui, alors, alors bon, pour décrire l'album de, comment dire, de Simon, il y a beaucoup de, enfin beaucoup, il y a un certain nombre de dessins d'animaux qui sont superbes, et en le lisant, je me suis dit, mais est-ce qu'elle peut être tes sources d'inspiration? Alors moi, ça, j'ai pensé à la hulotte.
Oui, de fait, j'ai grandi avec.
Voilà.
C'est vrai qu'inconsciemment, ça m'est revenu aussi, le fait de faire parler les animaux, de leur prêter vie et de leur faire faire... Finalement, c'est des petites pastilles d'humour quand les animaux interviennent. Et oui, c'est vrai qu'il y a un peu de la hulotte. Ouais. Les références, c'est jamais conscient, ça vient comme ça quand on bâtit le récit, mais ça peut en faire partie, oui.
Et là, sur le plan personnel, Loïc, tu es aussi jardinier, enfin, tu participes à un collectif à Saint-Pierre-des-Corps de gestion de jardin, je ne sais pas comment dire, de jardin, c'est une association, tu peux peut-être...
C'est ça, c'est une association, en fait, qui réunit quelques dizaines de personnes, on a un noyau d'une douzaine de personnes, et c'est quelque chose qu'on a eu l'idée il y a 3 ans maintenant, c'est de créer un jardin participatif à Saint-Pierre-des-Corps, le jardin du parc Gambetta, et donc c'est à la base c'est Benjamin Dubuis qui est le président de l'association qui adore la permaculture, voilà, de toutes ces choses là tout le jardinage, avec en plus accompagné de quelques personnes qui s'y connaissent bien dans le jardinage, dont un paysagiste. Et donc on s'est réunis et puis on s'est dit, bah tiens, ça serait bien de créer justement un petit jardin partagé. Et donc on avait pensé au parc Gambetta à Saint-Pierre-des-Corps, qui il y avait pas mal de gazon, il y avait des espaces assez vides. Et donc on a demandé à la mairie si on pouvait faire ce projet-là. Donc on a présenté tout ça. Et ça fait depuis 3 ans donc qu'on a planté des haies fruitières, par exemple, ou des plantes aromatiques, avec le concours des habitants du quartier et des enfants des écoles. Parce qu'on est allé présenter notre projet à des classes de CM1, CM2, CE1, CE2, et des écoles de Saint-Pierre-des-Corps et une école de Tours, l'école de Sainte-Marguerite. Et on les a unis à ce projet-là. Ils sont venus... après nos présentations en classe, ils sont venus nous aider à planter quelques haies fruitières, les casseillers, groseilliers. Et donc ça leur a permis de découvrir la nature, parce qu'ils n'avaient pas forcément, même s'ils pouvaient se promener dans la nature, ils n'avaient pas forcément l'occasion de faire du jardinage, eux. Et même moi qui étais vraiment très amateur, et qui, ça m'a permis aussi en même temps que comprendre un petit peu comment planter des plantes, et puis comprendre un petit peu comment elles pouvaient vivre. Donc c'est des plantations qui demandent pas beaucoup d'entretien, parce que voilà, on est un peu feignant, on aime bien faire la fête, et donc on fait des chantiers participatifs deux fois par an, en automne et au printemps, pour redynamiser, réparer un petit peu le jardin et l'entretenir, parce qu'il faut quand même, et puis quelques arrosages l'été. Et donc ça, c'est toujours avec les gens du quartier. Et on fait un petit peu de publicité, puis il y a quelques familles qui viennent nous aider pour faire ça.
Mais là, du coup, je rebondis sur le fait que le jardin, finalement, c'est aussi un moyen de faire du lien social. Et on voit dans ton album, Simon, que les voisins participent, que même au-delà, d'ailleurs. Et moi, j'avais une petite question, c'est-à-dire que, est-ce que le fait que tu... pratique ton, enfin tu laisses se développer la nature dans ton jardin en y ajoutant par petites touches et en expérimentant des choses, ça a suscité d'autres vocations, parmi tes voisins ou même au-delà, des gens qui ont envie un peu de changer leur approche du jardin et de, ma foi, commencer à se dire, on pourrait peut-être profiter de la nature et faire travailler la nature.
Alors non, pas spécialement. Alors après, ça m'a fait rencontrer des gens qui partagent un peu le même genre d'idées, mais en dehors de la rue et des jardins d'à côté. Alors non, en effet, c'est vrai que ça crée des liens, ça fait qu'on se rend compte, qu'on échange malgré tout des choses, des graines, des plants, des choses pour les poules, des restes, etc. Mais non, pour le moment, j'ai pas trop constaté de comment dire... Ça n'a pas fait tache d'huile, quoi.
Ouais, t'as pas donné des vocations, quoi.
Non, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est qu'on socialise avec les voisins, qu'on s'entraide, qu'on se donne des coups de main. J'ai régulièrement jardiné chez la voisine. Ah bon,
Ton album est une graine, quoi, quelque part. Tu sais, mais ça va faire.
Tout à fait, tout à fait.
Alors, et pendant les séances de dédicaces, là, du coup, est-ce que il y a comment dire, un public qui vient expressément pour cette approche du jardin ou pour.
Oui, c'est vrai que oui, il y a une sensibilité à cette approche du jardin. Depuis. Il est sorti il n'y a pas si longtemps, il est sorti en juin, et ça fait 3 mois, pile, en fait. Mais pour l'instant, les gens l'achètent non pas parce que ça leur dit quelque chose, mais parce que ça parle de jardin, en fait. Et cette approche en lien avec la nature et le fait qu'il y ait plein d'animaux dedans, etc., oui, ça, a priori, ça parle aux gens qui cherchent à lire ce livre. Hein.
Non, bah je pense que si on n'a pas d'autres questions, on va pouvoir vous libérer.
Si on est dans les temps, si notre fil rouge nous dit que c'est le moment...
Non, on a encore un petit peu de temps, on a 2 minutes si vous souhaitez encore discuter.
Ouais. Je rebondis un petit peu sur la permaculture. C'est vrai que voilà, le jardin Gambetta, c'est vraiment de la permaculture, donc il y a zéro phytosanitaire, zéro engrais. C'est grâce au paillage, grâce à un peu d'entretien, et vraiment très peu d'entretien. Après, c'est que le jardin s'est construit. Et on l'a aussi pensé aussi pour ça. On n'a pas planté des choses qui demandaient énormément d'entretien. Il n'y a pas de tomates, il n'y a pas de salades, des choses comme ça. Des choses suffisamment robustes. Là, avec la chaleur, ça nous a donné l'idée aussi de peut-être changer certaines variétés pour qu'elles soient un peu plus résistantes par rapport à une canicule. Donc voilà, on s'est adapté à ça et vraiment on est aussi dans la permaculture, c'est aussi le temps long. Donc c'est déjà bien analyser le sol, la terre, ce qu'on va planter, est-ce que c'est en rapport avec le climat de l'endroit où on va le mettre, avec l'orientation du vent, tout ça. Donc voilà, c'est plein de petites choses qu'il faut prendre en compte. Et donc ça, c'était vraiment très intéressant de prendre conscience justement de ça avec cette expérience.
Mmh. Oui, ça ressort bien dans ton album, juste ou non, ce côté expérimentation, Simon.
Oui, tout à fait. Et finalement, il n'y a pas de théorie, je n'ai pas lu de livres savants, etc. avant, mais je pense que je me retrouve pile poil dans les critères de la permaculture par la force des choses, en fait. Mmh. Et toujours expérimenter, rester humble, parce que finalement, c'est toujours le jardin qui décide. Mmh. Donc, on est sur la même ligne.
Et c'est aussi le fait d'aborder le jardin, pas dogmatiquement, si je ne sais pas si le terme existe, mais pas en disant, je veux dessiner effectivement des lignes droites, avoir des trucs comme ça. Et c'est que ça se fait aussi, il faut laisser la nature, il faut profiter de ce qu'elle peut faire et de ce qu'elle nous apporte. Mmh. Et voilà, c'est une manière d'aborder les choses qui est quand même assez intéressante. Alors, j'ai une petite dernière question, Simon. Je parlais est-ce que ton ouvrage pourrait être considéré comme un ouvrage politique, quoi, engagé, militant. Mmh. Est-ce que du coup, suite à sa diffusion, tu as eu des retours d'associations, qui t'ont contacté parce que peut-être que tu puisses venir faire des conférences,
Alors un petit peu, mais plus dans un cadre scolaire, par exemple, des lycées, des établissements de cet ordre-là, mais des parties où... Non, pas encore. Enfin, pas encore, ça n'arrivera peut-être jamais, mais je veux dire, ça m'est pas encore spécialement arrivé. Bon, après, le livre est frais, et je suis en train de découvrir ce qui peut lui arriver et ce qui peut venir avec, mais c'est vrai qu'il y a... Je reçois quand même pas mal de propositions, d'interventions, de conférences, de choses comme ça... Alors. Bon, à suivre, hein, mais c'est que le début. Là. On sort des grandes vacances.
Oui, en plus, voilà.
Et il ne s'est pas passé grand-chose pendant juillet-août.
Non.
Mais on va voir. Moi, je suis ouvert à tout ce qui se propose.
Eh bien, c'est sur ces mots. Je vais vous remercier, messieurs.
Hein, merci à vous.
Merci.
On va vous libérer et vous laisser retrouver votre public qui doit faire la queue. Vous patientez gentiment.
Ben, c'est ça.
Merci.
On va les retrouver de
merci.
Suite.
Merci.
Et donc on va passer avec Pomme Anxiété et après nous allons voir
Radio Campus Tour.
Que des visages amicaux, des gens gentils bien comme il faut.
Radio Campus Tour.
Y'a de la place pour se garer, tout le monde vous dit bonne journée.
Cette petite voix sur les ondes, c'est la vôtre.
RadioCampusTour.com.